Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 2 octobre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sous les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série d'actions que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Le performeur parlait aussi, il disait ce qu'il était en train de faire, hein. C'était tout un travail autour de canettes de coca qui explosaient ou qui n'explosaient pas, c'est de la fausse magie, voilà, on imagine, donc le public a un peu souffert aussi, hein. Il faut quand même le dire aussi.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, j'espère que vous passez un bon week-end. Bonjour Ultimatum.
Bonjour Das Creek.
Bonjour du sport. Oui, non mais voilà, comme d'hab.
Xavier, Xavier est pour rien, c'est le micro qui est fermé.
Bah oui, bah si... Mais il le sait que c'est le jaune, il sait que c'est le truc américain.
Voilà.
Non, parce qu'il a pris un micro qui a pas la bonne couleur et qui n'a pas un super son, et c'est pour
Yellow
ça qu'on comprend pas.
Non
mais je suis pas un Roddy, moi, je suis un acteur.
Je suis pas vraiment acteur, je suis mon projectionniste en fait.
L'extrait qu'on écoutait la semaine dernière, donc c'était Kinou qui parlait donc du printemps de septembre, dont Radio FMR n'est pas partenaire mais producteur. D'un programme spécial qui s'appelle La radio du bout de la nuit, qui consiste en fait, c'est en direct, en public, de 22h30 à 1h à peu près, à faire venir des artistes et à leur faire faire de la radio, voilà, tout simplement. Et ça donne des trucs absolument hallucinants. Ce qu'il racontait donc, c'est qu'il y avait des mecs qui s'y mettaient à fond, puisque en fait c'est présenté, alors excusez-moi, hein, j'avais pas préparé d'en parler dans les médias, par Jean-Yves Jouannet, qui est un critique d'art, et le Chevalier de Rinchy, et ils font une espèce de radio qui se veut absolument chiante, mais franchement, on se poile de rire, et ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est ce soir donc dans la cour de l'École des Beaux-Arts, de 22h30 à 00h30, il y a à boire, c'est aménagé en un chouette jardin, et il y a de la performance. Et il y a des trucs absolument délirants. Ils sont loin d'être mauvais. Et moi, nous, ça nous a beaucoup fait rire. Je vous fais juste écouter un extrait que l'on a eu samedi dernier.
Est-ce que maintenant que les présentations sont faites, on va vraiment passer à ce qui s'appelle une interview?
Allons-y.
Alors, moi, je voulais poser.
Quand je vais dire ça au cours de la soirée, ça veut dire que je vais lancer une petite musique.
Bien sûr.
Qui nous rappelle qu'on va faire une interview.
Très bien.
Allons-y.
Alors peut-être une chose en préliminaire, pour ceux qui ont écouté ou assisté à ce qui s'est passé hier sur ce plateau, qui a été jugé catastrophique.
Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas.
Nous avons pris la décision ce soir de mener une émission de manière extrêmement normal, voire pénible, oui. En termes d'ennui.
Et c'est déjà pénible, hein, je te rassure. Genre.
Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de jeu de mots, ni chute, ni chant. Voilà.
Il faut dire que la veille, ça s'était terminé. Il y avait deux mecs qui étaient à poil avec des mégaphones sur la table. Et c'est un cadre. Alors, c'est coproduit entre Radio FMR et la Fondation Cartier. Vous plaît. Donc c'est franchement institutionnel et tout ça, mais l'idée c'est justement d'exploser l'idée que l'art c'est chiant. Donc il y a vraiment plus une idée de performance et ça vaut vraiment le coup. Il y a un groupe qui s'appelle Le Grand Magasin, ils interviewent un artiste par soir où a lieu cette émission, donc la dernière, c'est ce soir, où en fait ils disent à la personne, ben vous devez répondre oui, oui, non, oui, oui, non. Et il déroule tout comme ça, toute sa vie artistique et leur interview en lui faisant dire oui, oui, non, c'est à pleurer de rire tellement que c'est bien foutu. Et ça marche, c'est vraiment un grand moment. Donc ce soir, c'est la dernière du printemps de septembre à la radio, de la radio au bout de la nuit. Mais vous pouvez l'écouter bien évidemment sur le site internet de la radio, radio-fmr.net. Ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment pas mal. Et ce que l'on entend, ça c'est Jansky Beat, on en parlera tout à l'heure, puisque c'est un dessinateur de BD qui fait de la musique, ou je sais plus trop, mais il est aussi question de chanteurs à texte populaire français qui se lancent dans la BD. Enfin, il est juste scénariste. Il s'agit de Didier Super.
Ouais.
Mais je l'ai gardé pour JB parce que là je sais qu'il va détester, puisque c'est Télérama a dit que c'était le plus mauvais disque qu'ils ont jamais reçu de tous les temps. Ils ont dû chercher dans les archives, c'est-à-dire ils ont dû chercher 10 secondes. La BD est assez cradingue et tout ça. Enfin, c'est le personnage de Didier Super de toute façon, et ça y va à fond. C'est assez délirant. On en reparlera d'ailleurs. On va essayer de recevoir le bouquin. J'ai pas dit recevoir Didier Super. Ou alors, oulala, ça a une émission qui va sortir de l'ordinaire.
Elle est nulle.
Thomas.
Oui,
toujours sur Toulouse.
Toujours sur Toulouse et à la Cinémathèque. Et ça a commencé hier pour se clôturer le 10 octobre prochain. Il s'agit de la 15e édition du Festival Cine España consacré au cinéma espagnol. Donc il n'y a pas qu'à la Cinémathèque, il y a aussi, je crois, à l'UGC, il y a certainement d'autres cinémas à Toulouse. Et donc cette année, donc c'est toujours la part belle consacrée au cinéma espagnol. Donc là, il y a un jury qui va remettre des récompenses. Donc cette année, il y a un hommage à Angela Molina qu'on a pu voir notamment dans certains films d'Almodovar. Il y a plein de films dans lesquels elle a joué. Il y a quelques longs métrages que j'ai déjà commencé à noter, certains qui valent le détour. Il y a des films avec Sergi Lopez, et oui, ils tombent toujours des deux côtés des Pyrénées. On a des panoramas de longs métrages pour faire découvrir des cinéastes espagnols qu'on connaît pas forcément chez nous. Il y a une programmation de courts métrages, des documentaires, et également, alors il y a un devoir de mémoire, je suis en train de consulter le programme, et il y a également la dernière séance qui est un programme des films.
Jesus Franco ? Ah non, Rec 2, Action Mutante.
Voilà, donc, il faut savoir que les Espagnols sont très friands de cinéma gore, fantastique de genre, voilà. Et donc cette année, il y aura donc Action Mutante de Alex de la Iglesia, Ampusa de Jacinto Molina, Les Chines du Diable de Guillermo del Toro, Rec 2, Sexy Killer, Nodo, bon voilà, pas mal de joyeuseté avec Los Sin Nombre de Raume Balagueró. Alors je crois que Balagueró, il s'est fait un nom depuis, il a fait... Attends, je regarde. Oui, bah, c'est celui qui a fait les deux recs, donc voilà. Et Viva la Muerte. Et Viva la Muerte. Et donc voilà, c'est l'occasion de voir apparaître une certaine faune qui ne regarde pas les autres films de Cine España, mais qui vient exprès pour ce genre de film. Donc il faut voir le programme de ce Cine España sur le site de la Cinémathèque, parce qu'il y a quelques films qui seront projetés en présence des équipes du film. Les équipes des films en question, donc voilà, ça, je pense, ça vaut le tour.
Oui, parce que c'est vrai que Cine España, c'est plutôt un truc entre guillemets, on va dire plan universitaire et tout ça, mais il y avait eu un début de collaboration avec les animateurs du Faubourg du cinéma, ils ont commencé à faire justement une programmation off qui est, enfin, on va dire off quoi, mais qui est plus qu'intéressante de ce côté-là.
Ouais, c'est peut-être dans ce cas-là qu'on avait vu l'année dernière dans ce même festival le film dont j'avais parlé. Cellule 211,
oui.
Qui était sorti sur Utopia, hein, qui
ah
était
oui,
passé au
Cine
Espagnol
ouais.
L'année dernière.
Voilà.
Ça vaut vraiment le coup. C'est librement disponible à partir de la... Non, c'est déjà disponible dans les principales supérettes culturelles. Il s'agit de Zoo, le magazine de bande dessinée, mais qui s'égare, je vais dire, dans le cinéma, le jeu vidéo, la pop culture. Oh, voyons, rien ne vaut
combien d'autres.
Avec en couverture une excellente illustration de Romain Hugo.
Exactement, puisque c'est un spécial aviation, donc bien évidemment il est question de
Bob Dani.
Non, d'abord du Grand Duc.
Oh mince.
Du Grand Duc. Non, d'abord il faut dire le prix qu'on a remis en direct à Angoulême.
Voilà, le prix actuel des Conseils Généraux des Jeunes de Charente.
Mais ça vaut pas Bob Dani, voyons.
Que nous avons remis en l'an 2009 en direct dans le supplément week-end en direct du Conseil Général de Charente.
Voilà. Et il est aussi question, bien évidemment, de
Beagles.
Vous voyez, de
Les Chevaliers du Ciel.
Oui, mais il l'a dit, Bogdani. Rocketeers.
D'ailleurs, il y a un reboot de Rocketeer là, qui est en train de marcher aux États-Unis.
Oui, il me semble. Et l'un des très rares mangas consacrés à l'aviation, mais à la belle aviation de l'entre-deux-guerres, Porco Rosso.
Mais c'est pas un manga.
C'est une animation, voilà. Mais ils disent qu'il y en a relativement peu. The Sky Crawlers de Mamoru Oshii.
Oui, mais d'ailleurs, il est en attente dans ma DVD Tech. Il faut que je le chronique dans cette émission.
Quoique, bizarrement, ils mettent les ailes d'Ono et Amise, qui, à mon sens, c'est pas franchement de l'aviation.
C'est pas franchement de l'aviation.
C'est plus orienté de la conquête de l'espace.
C'est ça. Un univers uchronique.
Voilà. Donc c'est disponible gratuitement un peu partout. Zo, avec bien évidemment, il parle aussi de Nicolas Hulot en BD, Johann Svarb, Moebius, Midam.
Mais comment tu vas retranscrire les psh? C'est un psh beau spécimen. Non. C'était nul. Merci.
Je pense au gag des guignols en ce moment sur Nicolas Hulot.
L'eau, ça mouille.
Ouais, alors ça, je sais que c'est une BD qui risque de plaire, même si c'est le tome 2, puisqu'il s'agit de l'or et le sang. Le deuxième tome s'appelle Inch'Allah, est sorti chez 12 bis édition, scénarisé par Maurice de France et Fabien Nuri, dessiné par Fabien Bédouel et Merwan. Si on revenait un peu justement, puisqu'on parlait de l'aviation d'entre les deux guerres, si on parlait de la Grande Guerre, qui était la guerre, vraiment une guerre vraiment horrible, la guerre des tranchées, c'est là où Léon Mathio, petit truand en Corse, a fait la connaissance de Calixte de Prampéan, rejeton révolté d'une famille d'aristocrates assise du côté d'Anières. Dans l'horreur de la guerre, c'est l'histoire d'Arruj Barberousse, un corsaire ottoman du XIVe siècle qui les fera rêver. Ils seront des bandits de grand chemin, ils seront des soutiens de la libération. Ah oui, forcément, un Corse est contre l'autorité des grands empires, préférant construire en général de grands empires. Puisque Arruj Barberousse avait aidé les tribus locales berbères et arabes à se révolter contre l'Espagne quand l'Espagne avait reconquis tout son terrain et avait commencé à envahir le nord de l'Afrique. C'est ainsi que Léon Mathio et Calixte de Prampéan prirent le large, direction Tanger, dans un demas, les cales remplies de caisses d'armes pour les vendre au Maroc à un trafiquant arabe. Car au Maroc, les indigènes tentent de se battre pour leur indépendance entre les occupants espagnols et français, lesquels s'entendent pas très cordialement. Seulement, ce que les deux aventuriers ne savent pas encore, c'est que les tribus rebelles du Rif ne s'entendent absolument pas entre elles. Ah oui, ils y vont un petit peu, ils ont un peu la fibre romantique, mais et voilà, il y a une petite erreur de casting. Leur livraison d'armes tournera au fiasco quand ils se feront pincer par l'armée espagnole, leur contact préférant toucher l'argent de l'occupant plutôt que laisser une chance à une autre tribu d'avoir un meilleur armement qu'elle. Ambiance. C'est ainsi que Léon et Calixte se retrouveront dans un imbroglio politique et diplomatique, amplifié par le fait que le frère de Calixte a été élu à l'Assemblée nationale suite à la vague Bleu Horizon d'après-guerre. Les Espagnols sont donc trop heureux de présenter les deux pieds nickelés comme des espions français qui ont tenté de faire du Maroc une colonie 100% française avec l'aide des bourricots. Fabien Nuri, on l'a interviewé pour Il était une fois en France. D'ailleurs, on attend la sortie du quatrième tome pour vous la diffuser. Et Fabien Bédouel dessine la série Un long destin de sang qu'on vous a présenté en mai dernier. deux scénaristes et deux dessinateurs, il y a du monde pour cette fresque aventureuse, et le tout est franchement de très bonne facture. Maurice de France, Fabien Nury au scénario, Fabien Derouel et Merwan au dessin, L'or et le sang, le deuxième tome s'appelle Inch'Allah. J'ai oublié de dire que c'est sorti aux éditions 12 bis. Oula, le son est parti un petit peu vite. On va parler de tout à fait autre chose, mais toujours de bande dessinée, plus ou moins directement. Jansky Beat est à la fois musicien, mais aussi BD blogueur sous le nom de Jean C. Il a participé au FestiBlog en 2009, qui a lieu maintenant, je crois que c'est dans le 12e arrondissement de Paris. C'est le festival des BD blogueurs. En tant que musicien, il a été remarqué lors du printemps de Bourges pour une tournée en première partie des Bonnie Bones et d'Alex Gopher. Il a fait une mini tournée au Japon, et bien évidemment ces deux projets sont interconnectés. Alors je vais vous raconter l'histoire du morceau. À la fin de ce millénaire, suite à une expérience qui a tourné à la catastrophe écologique, une partie de l'humanité a été corrompue par une maladie qui pervertit le cerveau des humains, la biomud. Ceux qui en sont infectés sont devenus les violets, de monstres incontrôlables qui n'ont plus rien d'humain. Tower City est la citadelle où une humanité encore saine se cloître dans le fascisme, la surconsommation et le kawaii distillé par l'unique mass media, le tout dirigé par une inquiétante entreprise prête à tout, la LBM Nox. Jansky est un garçon qui résiste mystérieusement au virus, mais à la condition que sa tête écoute sans cesse de la musique. Il a réussi à entrer dans Tower City, mais son pouvoir intéresse la LBM Nox un peu trop. Un univers graphique proche de Run, et le gamin avec la tête noire ressemble beaucoup aux héros de Mutafukaz, et de Raph, des Blazers vient immédiatement à l'esprit. Son album hippie, c'est-à-dire c'est un single long avec 6 titres, Game Planet est actuellement à gagner sur l'antenne de Radio FMR, sur 89.1 MHz, uniquement pendant le direct, je précise. Donc je vous invite à écouter en semaine le 17-19, ou sinon aller découvrir son univers graphique, Jansky Beats, sur son blog BD. On y trouve une version française de la BD présente dans le CD, justement. Pour l'instant, c'est le projet musical qui aboutit.
C'est la version anglaise que tu as sur le CD.
Oui, mais ce que je disais, sur le blog BD, il y a la version française. Tu suis pas?
Ben si, parce que tu viens de parler du disque. Sur le disque, c'est la version anglaise.
On y trouve une version française de la BD présente dans le CD single.
En anglais.
En anglais, oui, pardon, excusez-moi. Donc, le nom étant un petit peu compliqué à retenir, je vous invite à aller sur supplementweekend.fr. On a mis un lien dans nos chroniques, donc supplementweekend.fr, où vous avez donc le lien vers la BD de Jansky Beat. Et on va écouter ben, justement le morceau titre du single, à savoir Game Planet. On a le temps. Ça dure 5 minutes, on a le temps. We'll be right back. Voilà, et pour votre information, donc, Junkie Beats, Game Planet, extrait du CD single Epinomine, et vous allez sur le site web suppléantweekend.fr, vous allez en haut à droite dans les liens, et vous allez tomber en plus eh ben, sur les liens vers la BD et des reprises qu'il a fait, des morceaux qui sont librement écoutables sur le web et sans problème. La pub, non, on a le temps de passer la chronique. Ouais, on va passer la chronique livre parce que si du sport parle d'un livre, c'est sûrement un polar. Comme ça, après, ça ira très bien avec le polar que Thomas n'a pas pu parler la semaine dernière, à savoir The Town. Donc, du sport, je crois que tu as un livre.
Attends, c'est ça ? Encore un polar de psychopathe. Non, c'est pas ça ?
Psychopathe, peut-être un petit peu quand même, quoi. Mais bon, ça a fait assez bizarre déjà. De voir ce livre chroniqué dans SoFoot,
oui.
Il y a de cela quelques mois. Et
plus même.
SoFoot. Ouais, ouais. SoFoot. Ouais, déjà, non, mais des fois, il chronique des polars. Donc,
D'accord.
Oui, non, mais bon, pas souvent. Hein, pas souvent. C'est plutôt des bouquins de littérature générale, on va dire. Et sorti dans la collection Rivage Noir. Donc, d'abord Rivage Thriller, c'est-à-dire le grand format, puis en format de poche, Rivage Noir. C'est le livre de David Peace, 44 jours. C'est le titre en français. Le titre original, c'est The Damned United. David Peace, qui a d'ailleurs une particularité, c'est que avant ce livre, il en avait commis quelques autres, mais dont les titres sont des dates. Il a fait 1974, 1977, 1980, 1983, et ensuite GB84. Et là, il vient de sortir pareil en Rivage Noir, c'est-à-dire en collection de poche, le premier album d'une trilogie. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un auteur anglais, mais qui se partage entre l'Angleterre et le Japon, Tokyo en l'occurrence. Et il commence une trilogie dont le premier tome vient de sortir, qui s'appelle Tokyo Année Zéro. Et qui est une histoire d'enquête juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Pourquoi ce sourire
Non, rien.
Non, ok, d'accord. Alors, 44 jours, eh bien, ça raconte l'histoire d'un personnage qui a vraiment existé, Brian Howard Clough. Brian Clough, manager de football.
Stop footballeur. Il est midi 30, c'est l'heure de la pub.
On n'enchaîne pas les volcans, une exposition proposée par Point de Fuite Toulouse et Pavillon Project Montréal dans le cadre du festival le printemps de septembre à Voltex au Pont Neuf en partenariat avec Radio FMR. Jeudi 30 septembre, de 20h30 à 21h30, le collectif À la plage présente une performance La réalité n'existe pas. Samedi 2 octobre, 20h30, minuit 30, projection d'une vidéo d'artiste Florian Punière présente Stunt Lab. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de Point de Fuite, pointdefuite.net. C'est en partenariat avec Radio FMR.
Et on reprend de suite avec le cinéma.
Avec le bouquin 44 jours de David Peace. Et c'est assez rigolo de voir.
Oh, c'est pas drôle!
Si, 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 c'est assez rigolo donc de voir qu'on arrive,
de France perd, ouais.
qu'on arrive à faire un bouquin entier sur une période de la vie d'un footballeur devenu manager.
Ah oui, parce que d'habitude c'est vide. Hein.
Alors, pour faire dans l'historique, bon, c'est un petit peu écrit dans le. C'est un petit peu expliqué dans le bouquin. Brian Clough est un footballeur, on va dire, assez doué à la fin des années 50, début des années 60. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous lire le premier extrait. Il a sa carrière qui est brisée parce que, bon, à l'époque, en Angleterre, on jouait rough, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, il se pète la jambe, il se fait péter une jambe par un tacle assassin.
Allez, petite réprimande de l'arbitre.
Et à l'époque, il n'y avait pas des Müller-Wolfhardt, il n'y avait pas des professeurs saillants pour guérir les maux des footballeurs et les remettre sur pied en l'espace de 3 à 4 mois. Ça n'existait pas, donc jambes cassées, carrière brisée, facile. Et donc il se reconvertit en manager, il commence dans une petite équipe de 3ème division, Hartlepool, puis il monte un petit peu, Huddlestown, et ensuite il arrive à Derby County qui végète en seconde division anglaise. Il arrive à faire avec cette équipe de bras cassés et de pieds carrés. Une équipe qui tient la route sans vraiment de grosses vedettes. Première du championnat de seconde division, ils montent en première division et ils arrivent à décrocher le titre de première division dans la foulée. Donc il est porté au nu, il commence à participer à des émissions de télé en tant que spécialiste, consultant comme on dit maintenant. Mais surtout, il n'a jamais sa langue dans sa poche. Ce qui lui voudra beaucoup d'inimitié de la part des dirigeants, de la part de ceux qui sont autour du football. Pas de ceux qui jouent au football, forcément, hein, pas les joueurs, mais tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire la fédération anglaise, tous ces gens-là, hein, qui n'aiment pas trop son franc-parler. Et son franc-parler, eh bien, il le développe vraiment très très bien dans ce bouquin. Alors, David Peace s'est vraiment super renseigné sur le personnage et sur l'histoire du foot en général, parce que quand on regarde la bibliographie et les sources qui lui ont permis d'écrire ce bouquin, ben, ça va, quoi. Il y a pratiquement deux pages de bouquin, hein, trois biographies de Brian Clough, des biographies des gens qui sont autour de lui, l'histoire de la fédération anglaise de foot, l'histoire des différents clubs dans lesquels il est allé. Enfin bon, ça va quoi. Le mec s'est bien renseigné, il n'y a pas de problème. Et le livre est écrit à la première personne, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on est dans la peau de Brian Clough. Alors ça s'appelle 44 jours. Le premier jour, c'est le jour où Brian Clough, qui s'est fait virer de Derby County, ils ont gagné le championnat, donc ils jouent la Coupe d'Europe. Alors en plus, il y a un petit intermède où la fédération anglaise est un petit peu fâchée et un peu les boules que ce soit pas une des grosses équipes qui ait gagné le championnat. C'est une équipe de petits bouseux et tout, du Yorkshire, qui viennent jouer les troubles fêtes avec à leur tête un manager qui est un petit peu grande gueule, ouais. Genre Courbis chez nous, quoi, tu vois, mais mieux, quoi, enfin je trouve, quoi. Et donc trouve une affaire de fausse billetterie, de comptabilité pas nette et tout, et donc exclu Derby County des compétitions officielles, à savoir la Coupe d'Europe et les différentes coupes nationales que peuvent organiser la fédération. Mais l'année suivante, ils récidivent et donc là, ils peuvent participer à la Coupe d'Europe. Et lors de cette année de Coupe d'Europe, bon, ils échouent en demi-finale, ce qui est pas si mal quand même. Ils sont éliminés par la Juventus de Turin. Juventus qui allait se faire sortir en finale
par l'Ajax d'Amsterdam, 1-0. Et ouais, et donc...
C'est en quelle année ça déjà ?
En 72-73. Et donc après ces déconvenues, bon, ça commence à plus aller et tout. Bon, alors c'est les footballeurs de l'époque, hein, des années 60-70, c'est-à-dire les mecs qui fument clope sur clope. Dès qu'ils sont sortis du terrain, c'est le pub, ils s'arsouillent la gueule et tout. Enfin bon, c'est normal. Ils arrivent quand même à tenir la route sur un terrain. Hein. C'est le vrai footballeur anglais de l'époque. Et donc arrive le coup où il se fait virer purement et simplement de Derby County. Et donc il retrouve un petit poste comme ça quoi pour bosser avec un club de 3ème division, mais ça ne tient pas. Et le livre commence quand il réussit, quand il se fait nommer manager de Leeds United. Leeds United qui à l'époque est une des super bonnes équipes. Manchester United est à l'époque en seconde division, est tombé en seconde division au début des années 70. Hein. George Best est parti, donc bon, bah, il n'y a plus de problème. Les Charlton Brothers ont dégagé, bon, ils sont trop vieux. Donc c'est Leeds United qui tient le pavé. Et Leeds qui est surnommé l'équipe la tricheuse, parce que Leeds a gagné le championnat, mais en jouant des coups bas, en étant vraiment très dur sur le bonhomme, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas un beau football.
Ouais, quoi, à l'anglaise, quoi.
À l'anglaise, à fond les manettes. Leeds est l'équipe qui est pratiquement détestée par tout le monde. En plus, ils viennent, on les prend pour des pecnos, parce que bon, ils sont dans le Yorkshire. Hein. Leeds est situé dans le Yorkshire. Donc, ils ont leur putain d'accent à la con que personne ne comprend, surtout pas les londoniens. Et donc, le bouquin commence le premier jour. Eh bien, c'est. Le jour où Brian Clough arrive à Leeds et arrive au club de Leeds pour commencer à faire son boulot, son travail de manager avec cette équipe qui a tout gagné, donc qui est championne en titre, et c'est juste il va commencer avec des matchs de pré-saison et c'est raconté à la première personne. Alors il y a deux parties dans le livre, la partie avec une écriture normale et une autre en écriture italique. L'écriture italique est là pour expliquer.
Ça doit être un petit peu
pénible à faire. Non. C'est-à-dire qu'au début, on se dit bon, ok, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu dur. Mais au bout d'un moment, quand on a pris le rythme, ça marche tout seul, ça va impeccable, c'est nickel. Parce que les parties en italique, eh bien, racontent un petit peu le parallèle qu'il y a entre sa position actuelle, c'est-à-dire au début de son ère de manager chez Leeds, et tous ses débuts à Derby County, comment il est arrivé à monter, à grimper et tout, ses exploits passés à la tête de ses différentes équipes. Et donc, 44 jours, 44 chapitres, un chapitre par jour, bon, certains sont assez courts, c'est normal, où vraiment il raconte ce qu'il fait, comment ça se passe, ses rapports avec les gens et tout ça, et c'est vraiment pas triste. Alors, Brian Clough, tout d'abord, au départ, c'est un joueur qui est quand même relativement bon. Alors si j'arrive à trouver la page que j'ai paumée, quoi, ça ira un petit peu mieux. Brian Clough, ouais, c'est ça. Il dit 7e jour, destitution de Nixon. Destitution de Nixon et retour de cet abruti de George Best. Bestie, tu as une putain de chance de ne pas avoir été viré. Une putain de chance, sauf que tu ne crois pas à la chance. Le talent et le travail, voilà à ce à quoi tu crois. L'aptitude et l'application. La discipline et la détermination. C'est ce qui t'a fait passer de Clareville Common à Great Broughton, de remplaçant à l'ICI, à l'avant-centre de Middlesbrough Football Club. Il est né à Middlesbrough, puis à capitaine de Sunderland. C'est ce qui t'a permis de marquer tes 251 buts au sein de la Ligue en 274 matchs. Ce qui t'a permis d'obtenir tes 18 coups du chapeau, le hat-trick en français dans le texte, de marquer à 5 reprises 4 buts en un match. Et c'est ce qui va vous sauver, Derby County, et toi, c'est ce qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Ça, c'est marqué en italique. Un petit peu plus loin, là, c'est pareil. Là, on est déjà pratiquement... on est au 15e 11e jour, ça commence déjà à chier quoi, parce que bon, il en fait vraiment il fait vraiment ce qu'il veut, il vient quand il veut, il cause pas assez à ses joueurs, parce que bon, bah, il les aime pas de toute façon en plus dès le départ, parce qu'il y a toujours eu cette rivalité entre Leeds et Middlesbrough et Derby County, qui sont des villes qui sont très proches. Donc ils peuvent pas les sentir, ils peuvent pas se sentir.
Mais derrière, il y a une romance.
Et il dit, tu as construit un transatlantique avec une épave, tu as joué 42 matchs, tu en as gagné 26, tu as eu 11 nuls et 5 défaites, tu as marqué 65 buts. Tu attends le début de la saison avec beaucoup d'impatience. Tu es foutrement impatient. Une petite chose, une seule, ça c'est en italique, donc il est encore à Derby County. Une seule petite chose gâche cette période, et cette petite chose est Leeds United sous la direction de Don Revy, vainqueur du championnat de première division. Et histoire de rendre la petite chose pire, la presse compare sans cesse Leeds et Derby. Les scores vierges, les deux moteurs écossais, Bremer et McKay, les managers originaires de Middlesbrough, parce que le manager qu'il remplace, Don Revy, qui est parti de Leeds United au sommet de la gloire, parce qu'il remplace le Alf Ramsey à la tête de l'équipe d'Angleterre. C'est pour ça que le manager de Leeds s'en va au sommet de la gloire, en fait, parce que l'Angleterre n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 74. En fait, donc Alf Ramsey est plus ou moins viré et remplacé par, soi-disant, le meilleur manager du moment. Mais Revy et toi, taillés dans la même étoffe, la liste est interminable, mais tu n'es pas Don Revy et tu ne seras jamais Don Revy. Jamais. Derby County n'est pas Leeds et tu n'es pas Revy. Tu es un marchand de dynamite résolu à faire voler cette foutue première division en putain d'éclat. Tout ce foutu putain de football, parce que c'est ce que tu es. Brian Howard Claw, 34 ans, manager de première division. Et ça continue encore plus loin. Alors là, on en est au 21e jour. Et là, ça commence déjà. C'est pratiquement à la moitié de son parcours à la tête de Leeds, parce qu'au bout de 44e jour, il se fait foutre dehors.
Oui, c'est toujours l'entraîneur qui se...
Ouais, bah oui, c'est ça. Et là, c'est bien expliqué en plus dedans. De toute façon, on peut pas virer les joueurs. De toute façon, les dirigeants, ils sont ce qu'ils sont, donc on peut pas les virer. C'est vrai, eux qui ramènent les pépettes. Donc, qui saute, c'est le manager. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, de toute façon, quoi. Et là, il a vraiment des coups de déprime à des moments, parce que je n'apprends jamais rien, putain. Je n'ai jamais appris et putain, je n'apprendrai jamais. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le certificat d'études et je n'ai pas de diplôme. Pas un seul. Pourquoi j'ai marqué 251 buts en 274 matchs, mais n'ai été sélectionné que deux fois en équipe d'Angleterre. Deux seules putains de fois. Pourquoi j'ai remporté les titres de deuxième et de première division? Pourquoi j'ai atteint les demi-finales de la Coupe du Monde? Et pourquoi un jour, bientôt, je remporterai cette foutue coupe? Parce que je n'apprends rien, jamais, putain, je n'ai jamais rien appris et putain, je n'apprendrai jamais, parce que je suis Brian Clough, face contre la putain de moquette de ce soir, le futur putain de manager de l'équipe d'Angleterre, la face contre la putain de moquette. Et c'est comme ça du début jusqu'à la fin. C'est un bouquin qui est absolument magnifique. Il faut un petit peu apprécier le football, ça, il n'y a pas de problème. On se replonge dans les années qui sont loin derrière nous, hein. Donc les années 60. Et là, dans la période actuelle pour Brian Clough, 73-74. Alors en plus, c'est vachement bien foutu, parce qu'il y a carrément les classements des tableaux avec les différentes équipes du championnat aux différentes phases donc du bouquin. C'est vraiment un truc assez énorme. De toute façon, ça n'a rien à foutre a priori dans cette collection là, qui est une collection vraiment polar, de polar, ouais, hein, ouais. Mais l'écriture et la façon dont c'est amené et tout, quoi, moi il y a des moments ça m'a fait penser à du bon James Ellroy, hein, dans la façon dont c'est amené. C'est hyper rythmé et tout. Il y a des phrases sans verbe, il y a des phrases avec quatre mots simplement et tout. C'est entrecoupé, c'est rapide, c'est nerveux, mais vraiment, quand on commence à rentrer dedans et tout, on fait abstraction au bout d'un moment, hein, comme je vous l'ai dit, hein, des deux différentes formes d'écriture, hein, l'écriture normale et puis l'écriture en italique, quoi. Mais bon, là, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment un des super bouquins écrits sur le football. Je ne vais pas dire le meilleur, mais là, David Peace a fait vraiment très fort. C'est David Peace, donc 44 jours, ou The Damned United, paru chez Rivage Noir. Damned United, qui a d'ailleurs été porté à l'écran par Tom Hooper. C'est sorti il y a un an ou deux ans.
Oui, un peu catimini en salle chez nous.
Ouais, tout à fait, hein, parce que bon, bah, vu le sujet, bon, ok, hein, c'est vrai que ça ne va pas faire des cartons, quoi. Avec Michael Sheen, qui joue le rôle de Brian Clough, Michael Sheen, qu'on avait pu voir dans interpréter Tony Blair, hein, dans un autre film qui est passé un petit peu inaperçu chez nous. Il y a également
Timothy Spall. Tu parles de celui qui a été tourné par le cinéaste Coulatry chez lui ?
Non, par Stephen Frears, il me semble, quoi, qui avait fait le film avec Tony Blair et tout.
Je sais plus.
Il y en a eu trois qui sont sortis là.
Je pense que c'est celui avec Stephen Frears, justement, l'un des meilleurs d'ailleurs, hein, de ceux qui sont sortis. Il y a également Timothy Spall, il y a également Colm Meaney qui joue le rôle de Don Revy. Et James Broadbent également dans le rôle du patron de l'équipe de Leeds.
Et Brian Clough, il est mort là depuis, non ?
Brian Clough est mort en 2004. Donc, il faut aussi signaler que Brian Clough a eu une superbe carrière, car il a repris l'équipe de Nottingham Forest en 78, et Nottingham Forest a gagné la Coupe d'Europe en 79 et en 80.
Rappelez-vous. Donc en fait, il s'est remis de cet échec en fait.
Mais il n'a jamais son rêve, ça aurait été d'entraîner l'équipe d'Angleterre, parce que juste avant la Coupe du Monde en 58, il était pressenti pour être l'avant-centre de l'équipe d'Angleterre. Et sur un match, il devait jouer un match et il devait prouver qu'il était le meilleur et tout. Il marque un but, il fait un super match et tout. Et l'entraîneur lui dit non, tu ne partiras pas en Suède avec nous, c'est l'autre qui partira et tout. Mais rassure-toi, tu auras d'autres occasions. Et manque de bol, il se fait péter la jambe et donc il est déclaré inapte au football. Et donc il ne connaîtra jamais s'il a été sélectionné deux fois, mais bon, comme ça, pour des matchs plus ou moins amicaux. Et il ne sera jamais sélectionneur de l'équipe d'Angleterre en fait. Quoi. Alors bon, ça, quand on connaît un petit peu mieux l'histoire, ça n'en comprend que plus d'ampleur quoi, en fait, ce bouquin 44 jours donc, de David Peace.
Ouais, moi sur le football, je préfère 100 jours sur la PJ Palerme.
Mais je pense.
Ce qui nous amène au cinéma.
Ouais, non, mais je pense que.
Non.
même pour les gens qui n'aiment pas trop le football et tout, mais qui sont plutôt férus de bonne littérature, genre la littérature policière, la littérature pas la grande littérature, je pense que c'est un bouquin qui peut être vachement intéressant.
Tu as cassé ma putain de transition.
Vas-y, remets-le ton jingle.
Non, mais bon, 100 jours de Palerme, tout ça.
Ah, non, je sais pas, 100 jours, pour faire la transition.
PJ, Palerme, tout, cinéma, Chita.
Chita.
Vous êtes pénible, franchement.
Les 100 jours de Palerme.
Mais écoutez, merde.
Les 100 jours de Palerme avec Lino Ventura.
Bah oui, je sais. Espèce de produit, tu m'as tout cassé, c'est l'heure du cinéma présenté en Dolby Mono sur Onde Mono. Monoculaire par Thomas.
Alors aujourd'hui je fais un exercice de style parce que je n'ai pas relu ma chronique depuis samedi dernier, donc je vais voir, ça va être tout frais en fait.
Ah.
donc c'est marrant parce que c'est marrant parce que j'ai noté, j'ai fait des annotations sur mon texte, mais faut que je me relise maintenant. Allez, aujourd'hui on parle de The Town, on était dans le Yorkshire et maintenant on va aller à Boston, comme disent nos amis québécois dans les versions piratées.
Ah ouais, d'accord, ok.
Ah,
d'accord.
Mais tu es à Boston.
Ouais, d'accord.
Et je précise, je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas vu en 2005.
Massachusetts.
Voilà, alors The Town, un film réalisé et avec Ben Affleck et avec aussi Jeremy Renner. Des mineurs,
ouais.
John Hamm, Pete Postlethwaite et Chris Cooper.
John Hamm, Mad Men.
Oui, tout à fait. Et Pete Postlethwaite, avec l'acteur qu'on ne présente plus, Kobayashi dans Je Suspecte, Au nom du père.
Les virtuoses aussi.
Voilà. Et Chris Cooper.
Chris Cooper, quoi.
Voilà.
Chris Cooper, merde, quoi.
Il joue le père de Ben Affleck d'ailleurs dans le
film. Bah oui, vu son âge.
Alors, nous sommes à Charlestown, petit quartier de Boston de 1,6 km², qui détient le triste record du monde de braquage de banque et attaque de fourgons blindés au km². Voilà. Au cours d'un braquage de banque, justement, l'équipe de Doug McCrae prend en otage Claire et l'abandonne en pleine nature. Pour vérifier les informations qu'elle détient et éviter donc qu'elle ne parle aux fédéraux, bah Doug la prend en filature, mais ce qui devait arriver arriva. La 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 la. Il entre en contact et il tombe amoureux tous les deux.
Oh, c'est pas joli.
Pas de bol.
Vite identifié par les fédéraux, qui manquent encore de preuves pour les inculper, les quatre braqueurs jouent avec le feu. Alors doivent-ils se ranger et donc risquer de se faire zigouiller par leur commanditaire ? Ou continuer les braquages et se faire allumer sans sommation. Alors évidemment au milieu il y a Doug McCrae qui fit le parfait amour avec la nana. Évidemment il a son meilleur ami qui est aussi son bras droit dans les braqueurs, Jeremy Renner, la tête brûlée de des mineurs, qui voit d'un assez mauvais œil, qui fricote avec la nana parce qu'il lui dit oui tu sais si j'ai plongé pendant 10 ans en prison c'était pour te couvrir. Et l'autre il dit ouais mais moi je veux raccrocher, je veux me barrer de Charlestown, je veux aller ailleurs et tout. Ah non tu dégages pas, moi si j'ai plongé pour toi tu restes avec nous, t'es dans notre, c'est notre merde et tu restes avec nous, oh non et tout. Alors voilà, c'est t'as le personnage de Ben Affleck au milieu, il est un peu, il sait pas trop comment faire, il sait qu'il a les fédéraux au cul, il veut construire quelque chose avec la nana qui ne sait toujours pas que c'est son ravisseur, il est obligé de faire bonne figure auprès de ses trois potes braqueurs, évidemment la tête brûlée, son pote découvre à un moment donné qui fricote avec la nana, il la rencontre, c'est un peu nerveux, un peu tendu, donc voilà, c'est un sous-texte derrière. Alors moi, ça m'a... Bon, Ben Affleck, c'était pas son premier film, c'est Gone Baby Gone, son premier film qui était sorti en 2007. Et,
j'ai oublié de te le ramener d'ailleurs.
Ah, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai en DVD.
Ah, d'accord, ben voilà. On aurait dû se concerter avant, tu vois.
On n'a pas de discussion privée à l'antenne.
Et donc, même si c'est un film qui brasse beaucoup de personnages avec des agents fédéraux, les commanditaires, les braqueurs, les victimes et tout, alors c'est marrant parce que Ben Affleck, donc à la ville, et Jennifer Garner. Et
ah bon, je croyais qu'il sortait avec un...
Avec Gillo, non ?
Bah non, ça fait longtemps ça.
Ah bah oui.
Non, mais non, il est avec Jennifer Garner.
Oui, 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 oui.
Et qui voit-on parmi les otages de la banque ? Un certain Jack Bristow, Victor Garber dans... Enfin, Victor Garber qui joue Jack Bristow dans Alias. Donc c'est marrant. Donc voilà, s'il y a plein de personnages, en fait, Ben Affleck concentre son histoire quand même sur le petit quatuor de personnages principaux, et c'est quand même une histoire assez intimiste. Et moi, ça m'a fait vachement penser à, on va dire, un dérivé de Hit de Michael Mann, puisque ça se passait déjà dans l'univers des braquages, enfin le grand banditisme, même si c'était une grande ville, je crois que c'était à Los Angeles, avec les éclairages bleutés, les splendides buildings tout propres, avec des brillances, enfin à la Michael Mann, c'est-à-dire le mec qui est attiré par le fait de filmer les villes d'une façon totalement différente et tout. Et là, c'est vrai qu'on est dans un quartier de Boston avec ses rues pavées, les petites ruelles très étroites tout en pente. Et là, c'est vrai que bon, on est quand même dans le grand banditisme, parce que ils ont quand même vachement de moyens avec les fusils, c'est super préparé à l'avance, même si ce sont quand même des quatre potes qui ont grandi dans ce quartier, qui ont un commanditaire, c'est Pete Postlethwaite qui fait le fleuriste du quartier. C'est quand même un noyau dur qui est à petite échelle quand même, puisque tout le monde se connaît, comme c'est le quartier qui détient le record du monde de braquage au kilomètre carré, tout le monde sait qui braque quoi, etc. Donc voilà, c'est un hit, on va dire, à échelle humaine, et où, si tu veux, dans Hit, il y a De Niro qui entretient une relation avec Amy Brenneman, qui dit « Oui, moi, montre en main, il faut qu'en 2 minutes, tu sois prêt à lâcher ta vie pour échapper aux flics. » Ben là, c'est comme si dans Hit, tu te concentrais vraiment sur l'histoire d'amour entre la nana et De Niro, et que tout le reste, en fait, c'était des personnages satellites, sauf que là, il y a un dernier personnage, en fait, qui est super important, qu'on n'a pas vraiment dans Hit. Enfin, on l'a dans Hit, mais à une autre échelle, c'est-à-dire c'est vraiment le quartier en lui-même, The Charlestown, où vraiment la mise en scène présente bien le quartier, c'est-à-dire qu'on a le fleuve, on a les industries dans lesquelles bosse Ben Affleck parce qu'il est ouvrier, on a les petites ruelles, on a le quartier d'affaires, on a le quartier de la police, c'est vraiment, on voit bien l'architecture du quartier de Charlestown, et ce quartier en fait est comme un boulet en fait pour les personnages, soit un boulet, soit un ancrage très fort, sont des racines qui sont très importantes dans leur vie, puisque justement les personnages qu'on voit là-dedans, bon, on voit qu'ils ont une vraie maison, on voit qu'ils ont leur voiture est identifiée, ils prennent toujours la même voiture, on prend toujours les mêmes ruelles, et tu vois que le quartier a décidé un petit peu du sort de chacun, puisque si Ben Affleck ne s'est pas encore cassé, c'est parce qu'il a un devoir de fidélité envers ses potes, c'est comme s'il se traînait ce quartier comme un boulet qui est à la fois positif parce que c'est leur culture, leurs racines, ils sont issus de là. À un moment donné, il y a pas mal de dialogues entre son pote et le personnage de Doug McRae, où son pote lui dit, tu vois, c'est ici que je t'ai sauvé la vie, si j'avais pas été là pour tirer dans le dos du gars qui voulait te péter la gueule, et ben tu serais pas là. Alors il y a plein d'anecdotes comme ça, tiens, là on s'est rencontrés là, tiens, tu te souviens quand on était gamin et tout. Donc le quartier est super présent, et c'est pour ça que ça s'appelle The Town, ça s'appelle pas le braquage ou Doug McRae, voilà, c'est The Town. Donc voilà le quartier Charlestown qui est vraiment un personnage à part entière. Et sinon, bah moi franchement, Ben Affleck, bon, moi j'avais vu dans pas mal de merde, hein, Daredevil, Paycheck, bon, même s'il avait fait Will Hunting, bon, Ben Affleck c'était quand même le parent pauvre du duo qui formait avec Ben Damon. Damon avait percé et Ben Affleck était un peu... Ben là franchement, j'étais sur le cul parce que la mise en scène, elle joue sur plusieurs tableaux, à la fois sur l'histoire d'amour intimiste avec un peu des braquages en toile de fond. La partie braquage, elle est super efficace parce que vraiment c'est super nerveux, efficace, ça rappelle un peu les scènes de braquage du film de surfeur Point Break, où ils ont les costumes, ils sont maquillés, enfin pas maquillés, mais ils ont des masques, donc je crois qu'ils ont des masques de...
De président. Ouais, non, c'est masque, un masque de Nixon.
Si masque de président dans Point Break, mais dans,
Reagan.
Et dans The Town. Oui. Et dans The Town, ils ont une espèce de masque de tête de mort, un peu avec des dreadlocks à la Predator, un petit peu. Et justement, en voyant les à côté du film, Ben Affleck a vu l'idée d'utiliser ces masques-là parce qu'il était tombé sur une image d'archive avec des mecs qui étaient déguisés en tête de mort. Il dit oh putain, c'est génial, on va utiliser ça dans le film. Et les scènes de braquage sont super efficaces. Et le film, franchement, c'est. C'est un bon petit polar, bon thriller avec les braqueurs, les grosses fusillades. C'est pour ça qu'on pense aussi à Michael Mann, puisque ce film est la grosse référence de ce film, c'est Heat. On a tout ce qui est dans Heat, c'est-à-dire la histoire d'amour, on a la chasse, la poursuite entre les fédéraux qui essaient de les coincer, mais qui manquent encore de preuves, qui font des filatures, les braqueurs qui sont dans la ligne de mire des fédéraux depuis le début, parce qu'ils s'en cachent pas, ils savent qu'ils sont pris comme du gibier, mais comme ce sont des braqueurs et ils savent pas faire quelque chose d'autre dans leur vie, ils sont obligés de continuer les braquages. Donc évidemment, ils sont obligés de jouer sur la confrontation, et avec l'énorme gunfight qu'il y a dans Hit, là c'est à plus petite échelle, mais c'est bon, ils ont pas à rougir. C'est vraiment très explosif. Donc le film joue sur plusieurs tableaux, il réussit à chaque fois. Moi franchement, The Town, c'est la très bonne surprise. Je suis allé j'avais vaguement vu un peu l'affiche, j'avais vu un peu qu'il y avait des remarques, les critiques étaient assez positives dans l'ensemble. J'y suis allé un peu pour tâter la température, mais je regrette absolument pas. Si vous aimez les petits thrillers explosifs, avec les gunfights et tout, ce n'est pas que ça, bien sûr, avec une espèce d'ambiance un peu presque britannique, où il fait tout en froid, les personnages ils sont toujours des bousons, vraiment très ancré culture industrielle et tout, petit quartier de Boston, The Town, c'est nickel, réalisé et avec Ben Affleck et aussi Jeremy Renner, John Hamm, Peter Postlethwaite et Chris Cooper qui est encore à l'affiche.
Je m'excuse pour l'incident musical derrière.
Et petite dédicace spéciale, puisque pendant le film j'ai eu le droit à certaines remarques comme ah ouais, c'est vrai que Ben Affleck, ouais non, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ouais. Voilà, si vous aimez.
I'm fucking Ben Affleck!
Voilà, si vous aimez Ben Affleck, si ça vous tente de voir Ben Affleck pas rasé et puis un peu le regard ténébreux, parce que je suis un braqueur au cœur tendre et puis malgré tout.
Chérie, il faut vraiment que tu ailles faire ton talk show ce soir. Voilà, je m'excuse, tout à l'heure c'était pas un bon fond, mais j'étais un petit peu occupé sur autre chose, oui, c'est le plaisir du direct. On va se faire une petite interruption musicale, c'est le suppléant week-end numéro 252 sur Radio FMR 89.1 MHz. Vous pouvez nous écouter bien évidemment en différé si vous avez manqué le début, ou aller sur le site web pour retrouver nos chroniques, ou des trucs qui nous tapent dans l'œil, et notamment tout à l'heure on parlait du disque de Jansky Beats, et donc... du blog BD, le lien est sur le site de l'émission, et sinon je vous propose une petite interruption musicale avec Dead Man Ray Brenner.
The sun will rise and rise again.
Radio-FMR 89.1 MHz, Dead Man Ray, Brenner, oui je sais ça date un peu, mais je voulais un truc un petit peu mélancolique parce que cette semaine c'est tombé comme des mouches. Le premier est tombé d'ailleurs, c'est l'inventeur du Segway qui faisait un petit tour de sa propriété en haut d'une falaise, il a fait une belle chute.
En Segway ?
Ouais, ouais, en Segway. Il va avoir un prix exceptionnel pour le Darwin Award, quoique c'est quand même un mec plutôt intelligent. Il a commencé mineur et il a fini multimillionnaire.
Ah bon, je pensais plutôt pour le Icar Award.
Bon.
Bon, Tony Curtis, lui, il a pas inventé le Segway, c'est clair, mais enfin, il a quand même fini sa vie en fauteuil roulant. Malheureusement, avant sa disparition donc cette semaine, alors on va pas vous faire le topo en long et en large et en travers parce que ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Il est né donc à New York, à Brooklyn.
Il le fait quand même.
Et son papa était un petit tailleur juif. Ah oui, bah là c'est tout de suite le cliché et tout. Alors comme il est en 1925, bon bah il participe pas vraiment à la Seconde Guerre mondiale, mais il s'engage quand même. Il est dans les Marines. Puis après, il commence une petite carrière théâtrale où il fait un petit peu de Broadway et il est engagé par la Universal pour tourner un premier film en 1949. Pas n'importe quoi. Criss Cross de Siod Mac. Pour toi, j'ai tué. Et ensuite, bah, ça va être vraiment la rafale. Hein. De toute façon, bah, c'est normal. Hein. Quand on est acteur sous contrat et tout, bon, bah, on tourne dans tout ce qui se présente. Tout ce qu'on vous dit de tourner à l'époque, bon, bah, ça tournait quand même pas mal. Mais dans le lot, il y a quand même de bons petits films. En 1950, il en fait 4. En 1950, dont Winchester 73 d'Anthony Mann, ça c'est un western. et Kansas Raiders, un autre western de Jim Enright en 51. Alors c'est assez marrant parce qu'au bout d'un certain moment, ça a été pas un acteur fétiche, mais c'était un acteur qui était régulièrement rappelé par les mêmes réalisateurs, dont Rudolf Maté en 51 pour Le Voleur de Tanger, puis en 53 pour Forbidden. En 53, il tourne également Houdini de G. Marshall. En 54, encore Rudolf Maté dans Le Blackfield of Sherwood, un film de Robin des Bois, bien sûr. En 55, Rudolf Maté encore pour The Rawhide Year et dans le film qu'on connaît mieux, Trapèze, avec Burt Lancaster, le film
Sur ce qui se passe dans un grand cirque américain.
Voilà, où Burt Lancaster se casse la gueule. Ouais. Donc il doit former le jeune, et puis le jeune c'est Tony Curtis
qui est évidemment un petit peu les miquettes, hein, 20 mètres de haut, sans
voilà,
filet.
Voilà. Puis après Maté, bien c'est Blake Edwards au début de sa carrière qui commence à se dire que cet acteur a l'air pas trop mal et tout quoi. Et là, c'est là que Tony Curtis va plus développer son talent d'acteur comique, on va dire, de comédie. Hein, Blake Edwards, un peu logique, hein, avec Mr. Corey en 56. En 58, bon, il fait quand même Les Vikings, Richard Fleischer. Hein, il fait Blake Edwards encore en 58 avec Vacances à Paris. En 59, avec Opération Petticoat, qui a été traduit par Opération Jupon en français. Il fait également en 59, bien entendu, Some Like It Hot de Billy Wilder.
Un certain show avec une certaine
Norma Jean Baker.
Mais oui.
Voilà.
On laissera chercher sur Wikipédia.
En 60, il nous fait Spartacus. C'était la bonne époque des péplums. Donc, en 62, il fait. C'est pas lui Taras Bulba, c'est Anthony Quinn. Mais il est dans Taras Bulba de Jack Lee Thompson. 65, la grande course autour du monde. Blake Edwards, il fait surtout, à mon avis, l'un de ses meilleurs rôles. Moi, là où je l'ai vraiment super apprécié, le rôle du méchant dans The Boston Strangler, l'étrangleur de Boston de Richard Fleischer, avec Henry Fonda dans le rôle d'inspecteur et tout. Là, le face-à-face, il est magnifique, il est géant, et c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Il fait également un rôle assez dégueulasse de Menahem Golan en 76, tout seul, sans globus, et c'était un vrai film sur un vrai personnage, Louis Lepke, un des personnages de la mafia naissante dans les années 30. Il est également dans The Last Tycoon en 76, Le Dernier Nabab de Kazan, et il joue également Casanova dans Les 13 Femmes de Casanova en 77. Il en a fait plein d'autres, bien entendu, mais enfin bon, on s'en rappelle surtout parce que il avait fait aussi
Ah ça, vous l'avez entendu, rien entendu cette semaine.
Ouais, alors, on te passe ça, alors parce que bon, c'est vraiment le rappel auditif qui a marqué surtout les Français d'ailleurs, parce que la série a vachement marqué en France. Et on le dit, je vous le répète à chaque fois, c'est parce que le doublage de Balutin, et je me rappelle plus qui, Michel Roux.
Oui.
Michel Roux, c'était Michel Roux qui était le doubleur officiel de Tony Curtis, était absolument sensationnel. Que Balutin et Roux.
Alors que dans les dialogues originels, ils s'envoient du poisson pourri.
Ouais, et puis bon, c'est nettement plus plat, hein, y a pas de problème au niveau des dialogues. Alors que Roux et Balutin, justement, s'étaient amusés et avaient pris vachement de liberté avec les textes qu'ils devaient faire. Et c'est ce qui avait rajouté ce petit piment qui fait que les Persuaders, donc
amicalement votre
en français, avaient vachement mieux marché en France qu'un petit peu partout ailleurs. Et on va pas dire que c'est dommage, quoi, mais bon, ça montre bien que des fois, le doublage, ça peut être vraiment une arme à double tranchant, ça peut être vraiment très très bien, mais ça peut être aussi une grosse merde. Ça, c'est sûr, et ça, je le
maintiens. Il y a eu des fois, ouf.
Ouais, ok, y a pas de problème.
Je suis tombé devant Infernal Affairs en VF hier après-midi avec Anthony Wong, justement, qui parlait en français, c'est indescriptible.
Ouais. Mais il sait tout faire, Anthony Wong, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Donc, Tony Curtis, donc, décédé cette semaine. Ça tombe comme un gravelotte, comme dirait l'autre. Et une autre décès, c'est encore plus récent. Là, ça date d'hier.
D'hier, en journée.
Dans la journée, à Pasadena, en Californie. Il n'est pas allé loin, lui, pour mourir, de toute façon, vu qu'il est né à Los Angeles. C'est Stephen G. Cannell, né
mais
en...
qui c'est donc?
Il est né le 5 février 41 à Los Angeles.
C'est l'homme à la feuille.
Et c'est l'homme qui gaspille les feuilles de papier.
Ah, qui les lance.
Vas-y, tu nous passes le petit truc, là.
D'accord, ok, pardon, ok. Je vous croyais qu'on le passait à la fin du truc.
Ah non, non, vas-y. Stephen G. Cannell Productions.
Cette animation de papier qui devient le ciel.
Ah ouais, 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 c'est beau, c'est magnifique.
Il l'a refait d'ailleurs à travers les années. Il y a une vingtaine de versions différentes. Et en les compilant tous et en les regardant attentivement, eh ben, je peux vous dire que depuis tout ce temps, il a abandonné la pipe. Il a grossi, il a gagné des awards. Il est passé, il avait sa machine à écrire côté fenêtre. Il a mis de l'autre côté, contre un mur. Il a maigri, il a mis un polo, il a souri. À la fin.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il n'a jamais changé de machine à écrire. Il a toujours eu une IBM Selectic. Ça a toujours été le même modèle et je pense que c'était la même. Un peu d'ailleurs comme Goscinny, je pense que ce côté-là. Il y a des écrivains prolifiques qui avaient énormément de séries. Gardaient toujours leur machine à écrire auxquelles ils étaient fidèles.
Alors ce jingle, à ma connaissance, le seul jingle où tu vois le créateur de la série qui se met en scène à la fin dans
c'est
le jingle,
vrai,
non?
C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai en plus. Hein.
Non, il y en a un en animation. C'est les mecs qu'on voit à la fin de Spin City. Il y en a eu d'autres. Hein. Je sais que Bruce là nous écoute. Donc s'il le faut, il va appeler et il va te dire.
Ouais, ouais.
Mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Il y a Jib et Jab, les producteurs. Avant, ils avaient fait de la série télé. On les voit tous les deux en train de s'engueuler. Ils s'envoient une vanne à propos de l'épisode. C'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une réelle starisation du producteur où on le voit.
Bon, au départ, il n'a pas été producteur. De toute façon, au départ, il était bien entendu scénariste. Hein, il a fait un scénario de Columbo, par exemple, en 73 également. Il a été également acteur, hein, de toute façon. Quoi, hein, on l'a vu assez récemment.
Ouais.
Alors, acteur récurrent, il l'a fait dans une seule série.
Mais quelle série ?
Le Rebelle, bien entendu.
Au secours.
Le chef des méchants, où il s'appelle...
Le chef des pourris.
Hudson, je crois, il s'appelle en plus. Quoi. Bon, oui, il est excellent, de toute façon. il a fait des caméos dans d'autres téléfilms. On n'a pas noté tous les téléfilms parce que bon, ça reste quand même des téléfilms.
Il joue son propre rôle dans une partie de poker.
Oui, mais attends, je vais y venir. Il a fait des apparitions dans Santa Barbara aussi. Hein, pourquoi pas. Et c'est surtout sur sa carrière en tant que créateur de séries et producteur ou coproducteur que là il a fait très très fort.
Allez, fais-nous rêver.
Alors on commence par le haut du pavé. Profite.
Ah ouais.
Oui.
Un flic dans la mafia où il est également scénariste, dialoguiste. Alors un flic dans la mafia, ça a été la grosse machine quand même parce qu'il n'était pas tout seul. Il y avait également Frank Lupo. Où il a créé d'autres séries, on verra un petit peu plus tard. Il y a également Steven Cronish, le mec de MacGyver, et Flic dans la Mafia, c'est quand même des réalisateurs qui ont percé plus tard, hein, Bill Corcoran, Rod Holcomb, Kim Manners, qu'on a vu dans X-Files, incalculable de fois. Ouais. On va pas raconter un Flic dans la Mafia, qui est une des meilleures séries de la décennie des années 80, sans conteste, hein, ça y a pas de problème. Et il y a également, bien entendu, les autres séries un peu plus dispensables, genre Agence Touriste, qui a été créée par Frank Lupo et dont il est producteur. Mais d'autres séries moins connues, comme L'As de la Crime, avec Steven Cronish, ils sont co-créateurs, les deux, Cronish et Cannell, L'As de la Crime, où on voit apparaître un certain, avec des cheveux, Michael Chiklis. C'est également, Cannell a également créé Barretta avec Robert Blake, tu sais, l'acteur qui a été inculpé de meurtre et tout il n'y a pas si longtemps que ça.
Qui le don d'ubiquité dans Lost Highway, le gars tout chelou là.
Voilà. Et Barretta donc avec également Dana Elkar. Booker également, dont il crée le personnage, mais c'est une série spin-off de 21 Jump Street, bien entendu, c'est lui qui l'a créé également et qui a révélé donc le beau Johnny Depp et le beau Dustin Nguyen et le ténébreux Steven Williams.
Il n'y avait pas Richard Grieco aussi?
Et Richard Grieco qui justement a sa série spin-off Booker.
D'accord.
Voilà, mais parce que Richard Grieco faisait partie de 21 Jump Street. Les dessous de Palm Beach également, créé et produit par Stephen G. Cannell, qui d'ailleurs a un titre original en anglais avec un espèce de jeu de mots qui est assez difficilement traduisible parce, enfin si, Silk Stalking. Stalking dans Stalker, tu vois.
C'est le voyeur, le mec qui suit.
Alors que normalement ça devrait être Silk Stockings, les bas de soie. Alors tu vois le jeu de mots et tout, avec Robestes, Mixi Capture, enfin Benberine, bref, $200 plus les frais, les Rockford Files avec le papa de Jennifer, James Garner.
Ah oui, en fait.
Et si, si. Alors, Booker, musique Mike Post, $200 plus les frais, musique Peter Carpenter, Mike Post, il y a également Timide et Sans Complexe, ça je sais pas si je vous en ai déjà causé, une série du début des années 80 qui s'appelle en version originale Ten Speed and Brown Shoe, le nom des deux personnages principaux. Ten Speed, c'est Benverine donc qui est après capitaine, le patron de Robestes et de Mixi Capture dans Les Dessous de Palm Beach, la musique de Post et Carpenter, et Brown Shoe c'est Jeff Goldblum, c'est également une histoire d'enquête. D'enquêteur, c'est-à-dire il y a un mec qui veut devenir détective privé, il a une vision comme ça, et puis claque, et il racole un pote à lui qui est plutôt le mec de la débrouille, qui fait des petits larcins, des petits trucs comme ça, mais pas des trucs bien méchants. Bon, et alors c'est surtout une série sur le thème humoristique et tout, avec le gag récurrent à Jeff Goldblum, à chaque fois qu'il est devant des méchants et tout, il leur dit « Attention, je suis ceinture noire de karaté !» Et puis, bam, il se prend un grand pain dans la gueule, et puis il s'effondre et tout, c'est le gag un petit peu récurrent dans la série. Il y a également Les Têtes Brûlées, bien sûr, qu'il a créé et produit, Steven G. Cannell, musique de Mike Post et Peter Carpenter, bien entendu, et une série dont je n'ai jamais entendu parler et qui, paraît-il, est excellente, 13 épisodes seulement, en 76, sorti en 76 sur la NBC et en 79 sur TF1, ça s'appelait pas TF1 à l'époque, ça s'appelait la Une, Los Angeles années 30, dont il est le créateur et le scénariste. Il n'y a eu que 13 épisodes en fait, et qui raconte dans le Los Angeles des années 30.
Non, je déconne.
Qui raconte dans le Los Angeles des années 30, ça s'appelle City of Angels en version originale, les aventures d'un privé à la manière, un mélange de Philip Marlowe et de Sam Spade, tu vois. Et d'ailleurs, le privé Jake Axminster dans Los Angeles années 30 est le personnage qui a inspiré Roman Polanski pour le rôle de Nicholson dans Chinatown.
Oula, d'accord.
Tu vois, donc, et là c'est Wayne Rogers donc, qui interprète le rôle de ce privé Jake Axminster. Il paraît que c'est vraiment une très très bonne série. Donc, et c'est dans le temps, eh bien, la première que crée entièrement Steven G. Cannell. Qu'est-ce que tu nous mets là?
Et c'est pas lui qui a fait Pour l'amour du risque ou des trucs comme ça?
Ah non,
non.
Non. Il y en avait tellement en même temps que. Il n'a pas pu tout faire non plus. Hein.
Non, là,
bon,
là j'ai fait
okay,
le topo.
Je t'accorde un générique si tu dois choisir lequel. Un générique, Dus.
Oh bah.
Je vais essayer de le trouver. Hein.
Les Dessous de Palm Beach, allez, vas-y.
Ah putain, je pensais qu'il y avait chopé dans les années 80.
Bah c'est 90.
Ah non, je l'ai pas.
Oh.
Ah, pour nous rappeler les ambiances de luxe dans les piscines.
Ouais, le temps que tu trouves. Le temps que tu trouves, on va continuer vite fait avec deux séries à l'affiche cette semaine inédites à la télé. Et toutes les deux sur des chaînes câblées où il faut que tu payes un supplément pour les avoir. Sinon, laisse tomber.
Je commence par laquelle ?
C'est même pas la peine. Tout d'abord sur Orange Cinéchoc. Alors, on le répète chaque semaine, je vous le dis pratiquement chaque semaine. Orange, c'est regardé par même pas 1 million de téléspectateurs qui ont pris l'abonnement. Mais c'est quand même le bouquet de chaînes qui rafle un maximum de chaînes de bonnes séries, hein, de séries en prime time.
Ils peuvent. Hein. Est-ce que tu sais combien ils ont mis en budget série dans cette chaîne?
Ils ont paquet de pognon.
60 000 abonnés.
Sur quelle chaîne, Tani?
Orange Ciné-Série.
Ouais. Enfin, le bouquet.
Ils ont foutu 15 millions dans l'espoir de couler Canal.
Bon.
Et maintenant, ils en sont réduits à vendre à Canal.
Ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que
C'est le foot par à Canal. Lié dans TPS. Et la partie série va être revendue à Disney.
La partie série, ça dépend. Hein. C'est plutôt. globalement au plus offrant. On sait
c'est,
que par exemple.
C'est les dernières, ces dernières infos qui tournent. Donc, de quelle série tu parles ?
Eh bien, il s'agit de Spartacus.
Voilà, c'est bon, je voulais savoir comment c'est le bon jeu.
Spartacus Blood and Sand.
Pourquoi tu veux. Pourquoi il nous passe du Bruce Lee ?
Parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est une très mauvaise série, c'est n'importe quoi. Donc, allons-y jusqu'au bout. Bon.
Alors, okay. D'après les critiques, les scénarios tiennent sur une feuille de papier, mais par contre, c'est une série qui est labellisée moins 16. Alors bon, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça, à part les hentai et à part Oz. Hein, qui est moins 16, les autres c'est toujours du moins 12, hein, même quand il y a un petit peu de cul, un peu de sang, il n'y a pas de problème, ça passe quand même.
Bah ouais, même quand là... Jack Bauer torture au lance-flamme ouais. En dénucléant un terroriste, moins 12 et Virgin
voilà.
17,
et pardon, bien là, et bien là, dans chaque épisode, il y a au moins 4 à 5 scènes de sexe et 4 à 5 scènes de combat, c'est normal, c'est Spartacus, donc
des scènes
faut
que
ça latte à fond
homo.
Les manettes. Ah bah ça se passe dans la Rome antique donc ça quoi, apparaît
tu veux dire qu'il
un peu
pas allé
logique.
Tu veux dire qu'il n'est pas allé se faire voir chez les Grecs ?
Ah bah non mais bon les Grecs ils étaient en deçà là.
Non mais tu as remarqué comme chaque fois qu'on parle des péplums, il fait toujours des blagues sur les Grecs en plus Xavier. J'avais fait ça avec le film Alexandre d'Oliver Stone aussi.
Alors Andy Whitfield joue le rôle de Spartacus. Et avec également Craig Parker dans le rôle d'un Romain, si on sait pas plus de toute façon. Et d'ailleurs, la première saison a été entièrement tournée avec Andy Whitfield. Mais à la fin de cette première saison, Andy Whitfield a annoncé qu'il avait un cancer. Et donc, les prévisions qui ont été faites pour tourner la deuxième saison, ils ont dû les revoir entièrement. Et donc, la deuxième saison est en fait une préquelle de la première saison. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet-là pour l'instant. Sur Spartacus, c'est sur Orange Cinéchoc et c'est du prime time. Demain soir, 20h40, les deux premiers épisodes donc de cette première saison qui en compte 13. Le premier épisode s'appelle Le Serpent Rouge, le deuxième Sacramentum Gladiatorum.
Oui, mais si c'est Spartacus, on sait déjà comment ça va finir.
Ah, mais c'est pas grave.
Enfin bon, Radio FMR souhaite un joyeux visionnage aux 232 abonnés à Toulouse qui possèdent cette chaîne.
Ouais, non, mais c'est comme quand tu regardes Rome ou quand tu regardes les Tudors, oui. Tu sais comment ça se finit aussi.
Oui.
Mais tu regardes quand même, quoi. C'est alors, deuxième série inédite, c'est lundi à 20h50 sur Canal+. Et si vous vous baladez un petit peu partout en ville et tout, vous avez déjà vu les affiches sur les abribus et tout.
Sur lequel d'ailleurs l'association Le Nid a émis des réserves. Et on va écouter alors, le générique puisqu'on l'a sous la main.
Ah bah ouais, bah cool.
Quand il veut, sale bête.
Bon, il a des problèmes avec YouTube, hein.
C'est pas YouTube, en plus, c'est le site de Canal.
Donc, oh, bah alors là, laisse tomber, quoi. Donc, ça s'appelle Maison Close. Et là, bah, alors, Canal Plus commence à nous habituer à ces vraies productions, à ces productions maison, hein, mafiosa, il y en a plein d'engrenages, Braco, enfin bon, il y en a pas mal. Ouais, Pigalle la nuit, des trucs comme ça. Donc, bon, bah, ok, on sait qu'ils, maintenant, ils ont acquis une espèce de savoir-faire. Bon, ils ont entièrement pompé. De toute façon, la chaîne Canal Plus à l'origine est une chaîne qui est entièrement pompée sur une chaîne câblée américaine, HBO, pour ne pas la citer.
Ouais, mais bon, hein, quel pompage.
Mais attends, mais HBO, d'avant le revirement d'HBO, quand HBO commençait à produire de la série haut de gamme, ah. HBO, c'était quand même une chaîne qui était une chaîne sportive au départ, hein. Home, ah bon, Box Office, c'est la chaîne de la boxe au départ, hein, où pour voir tous les matchs et tout, on pouvait, c'était une chaîne de pay-per-view pour la boxe, hein, on pouvait voir les plus gros matchs de championnat du monde de boxe, donc, pour se diversifier, et surtout parce qu'à une certaine époque, eh bien, il y a eu une diversification des fédérations internationales de boxe, au départ il n'y en avait qu'une, donc c'était facile de négocier, mais maintenant on est à 5 fédérations différentes internationales qui organisent des championnats du monde de boxe dans chaque catégorie. Ce qui nous fait plus de 70 titres de champion du monde de boxe, c'est plus difficile de négocier avec plusieurs fédérations. Donc c'est pour ça que HBO a décidé de diversifier un petit peu ses programmes. Et donc créer toutes les super séries qu'on a pu voir.
Enfin, d'ailleurs, la toute histoire, c'était lié au premier réseau câblé dans une métropole, puisque c'était à New York, et le producteur s'est dit...
C'était sur la côte est, ouais.
Le type qui avait monté ce premier réseau câblé s'est dit, je vais faire venir des gens, etc. Donc, il a négocié il a négocié des films et donc ce premier match de boxe, je sais plus quand, mais c'était en fin années 60.
Enfin, ouais, c'est ça. Pour en revenir à Maison Close, alors vous avez tous vu ces magnifiques, ces belles affiches avec des jeunes filles très courtes vêtues. Ça se passe donc dans une maison close à la fin de la guerre de 1870 en France, et donc ça nous raconte un petit peu ce qui peut se passer à l'intérieur d'une boîte de putes, avec Anne Charrier qui joue le rôle de Vera, la fille qui est au courant d'à peu près tout, qui peut satisfaire tous les fantasmes et tout, avec Valérie Carsanti qui joue le rôle de Hortense qui est une lesbienne avérée, un petit peu rentre dedans et tout quoi, et la jeune Oua Prude et tout qui doit subir les outrages et toutes les perversions de ses clients, interprétés par Jemima West. La chose qui peut être intéressante, c'est que la réalisation a été confiée à Mabrouk El Meshri, donc JCVD, rappelez-vous, quand même.
Et l'excellent Virgile.
Ouais, donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Par contre, les critiques ne sont pas tendres avec cette série, parce que c'est quand même un univers très glauque, et on sait quand même un petit peu qu'à l'époque, les prostituées n'avaient pas la vie facile, hein, même quand c'était dans des boîtes soi-disant de luxe.
Vous pourriez tout de même venir jusqu'ici.
Si nous nous contentons de parler, vous serez payé de la même manière.
Je fais pas ça que pour l'argent.
Voilà, c'est un extrait. Il y a d'autres extraits sur le site de Canal+, sur Maison Close.
Ok, donc on rappelle, ça passe à partir de lundi sur Canal+, 20h50, donc
avec
premier
le
épisode.
Double cryptage.
Ouais. par contre, je crois que c'est du moins 12, hein, c'est pas extraordinaire, hein, en fait, hein, de toute façon, quoi. Donc c'est lundi. Alors, pour terminer la semaine à la télé, c'est une semaine Curtis Cannell, avec quelques exceptions quand même,
pas
mal. Parce que c'est pas terrible, hein, surtout pour Tony Curtis qui s'en sort très mal. Peut-être qu'il y aura un changement de programme de la part de certaines chaînes pour rendre hommage à ce grand acteur. En tout cas, ce soir sur TMC, c'est commencé depuis 25 minutes. En ce moment sur TMC, Agence Touriste, bien sûr, avec l'épisode de la saison 3, Les Chevaliers de la Route. Ce soir sur France 4.
Mais il est passé déjà de toute façon.
Ce soir sur France 4. Alors on parlait Spartacus avant, je vous convie à voir un bon film de gladiateurs, vraiment, j'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà chroniqué, L'honneur des gladiateurs de Jorge Papavassiliou, film gréco-autrichien, mais qui est absolument magnifique.
Tu aimes les films de gladiateurs.
Non mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal, c'est bien foutu, hein, on se dit même qu'à côté, Gladiator... ça apparaît un peu fade, un petit peu, tu vois, enfin bon, vraiment quoi, c'est...
film de gonzesse quoi.
Ouais. Alors, ça date de 2003 avec Stéphane Ormou.
Je crois que tu vas être bien permanent.
Et Marion Mitterhammer qui joue également dans Gladiator d'ailleurs, c'est à souligner. Demain, sur TV Braise à 18h45, MacGyver, 2 épisodes, le jugement hâtif de la saison 5 et un geste d'humanité de la saison 6. Lundi sur France 2 à 20h35, Castle, c'est les deux derniers épisodes de la saison 2. Alors le premier, ça s'appelle Doublement Mort, et le deuxième, le 24e épisode de la deuxième saison, 24e et dernier épisode de la saison 2, et Espion d'un jour, avec la partie de cartes dans laquelle on retrouve Stephen G. Cannell et Michael Connelly. Ouais. Lundi sur TMC, alors là, tous les jours de la semaine sur TMC, 17h55, un épisode de MacGyver suivi de 2 épisodes d'Agence Touriste. Et lundi, par exemple, MacGyver, c'est l'épisode Honte de choc de la saison 4 et les épisodes d'Agence Touriste qui suivent Le Monstre du Lac de la saison 4 et Mystère à Beverly Hills de la saison 3. Mardi, sur RTL9 à 20h35, Force One, et celui-là, je ne connaissais pas, alors c'est pour ça que je vous en parle, de Paul Aron avec Chuck Norris, Jennifer O'Neill, Clou Gallagher en 1980. Attention, il était encore jeune, bien foutu et tout. Et il avait la petite moustache. C'est la période moustache là. Période moustache là, hein, de Chuck Norris. Mercredi sur Sci-Fi, Land of the Dead de George Romero, qui est pas mal du tout, avec Asia Argento, Dennis Hopper, John Leguizamo qui crève à la fin, et Simon Baker. Spoiler. Et le mentaliste est même dans le Land of the Dead, Simon Baker. Donc jeudi sur 13e rue, 20h45, Mission Alcatraz, Steven Seagal en prison avec Ja Rule, avec Bruce Weitz. Bruce Weitz qui avait joué dans Captain Furio, et également Tony Plana.
Tony Plana.
Tony Plana, le papa de Ugly Betty. Ah. Le père de Ugly Betty, oui, voyons. Oui, oui, bah alors. Et il doit certainement jouer le rôle d'un chef de gang hispanique dans la prison de Alcatraz à tous les coups. Hein, puisque bon, bah, il est quand même un petit peu marqué par ce genre de rôle à dire. Réalisé donc par Don Michael Paul en 2002. Bon, c'est dispensable. Mais par contre, après, c'est une soirée, Steven Seagal. Après, celui-là, Justice Sauvage de John Flynn. Ne le loupez pas, c'est un des meilleurs avec l'ombre blanche, sans problème. Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach qui nettoie la racaille new-yorkaise pour enlever tous les dealers qu'il y a, les marchands de mort et tout ça, quoi.
C'est pas dans celui-là où il fait une virée toute la nuit pour venger la mort de son coéquipier, ou c'est Nico, ça?
Non, c'est dans Nico, ça.
Ah, ouais. D'accord, je confonds les deux.
Celui avec Sharon Stone.
Oui.
Ouais, ouais, non, ça c'en est un autre. Hein. Celui-là, il est hyper violent, quoi.
Justice Sauvage, d'accord. Ouais, et donc, c'est où ça, t'as dit?
Ça se passe à New York.
Non, mais sur quelle chaîne?
C'est sur 13ème rue, donc jeudi prochain, après Mission Alcatraz. Et également sur TCM, jeudi prochain, 22h20, on en a parlé. Spartacus, le film de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas dans le rôle de Spartacus, Laurence Olivier dans le rôle du centurion romain, Gene Simmons, c'est la belle jeune esclave et tout, qui va être donné en pâture à Laurence Olivier, mais Tony Curtis également, jeune esclave, va la sauver et tout. Mais malheureusement, il y a le chef du Sénat, Gracchus, interprété par Charles Lofton, le magnifique Charles Lofton, qui est là et qui va magouiller à fond les manettes et tout, quoi. Parce que Laurence Olivier, au départ, il veut pas tuer Spartacus. Mais comme Spartacus s'est rebellé, le Sénat n'a pas apprécié. Enfin, ça, vous connaissez l'histoire de toute
façon. Petite anecdote qui m'a toujours fait rire sur ce film, c'est que les producteurs avaient viré Anthony Mann parce qu'ils voulaient absolument un réalisateur qui puisse facilement contrôler. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Ils ont mis Kubrick, quoi, qui était le plus grand contrôleur de l'histoire du cinéma. Oui.
À noter d'ailleurs que les films qui sont actuellement diffusés sur TCM Cinéma, c'est les versions qui ont été repassées repassées au télécinéma en HD et tout, donc c'est les images qui ont été restaurées dans le cadre d'une sortie Blu-ray. Alors TCM diffuse encore en format conventionnel, mais l'image va être tip top nickel, mais surtout le son, ça c'est peut-être beaucoup plus intéressant.
On termine avec vendredi sur RTL9, toujours dans la case cinéma asiatique, en deuxième partie de soirée, 22h20, Azumi 2. Alors on n'a pas vu l'Azumi 1, bon, laisse tomber, tant pis. L'amour ou la mort de Shusuke Kaneko en 2005 avec Aya Ueto, Yuma Ishigaki et Shun Oguri. Donc, et c'est tiré d'un manga, donc tu sais mieux que moi de quoi il s'agit. Akumi, tu connais pas? Bon, bah laisse tomber, quoi.
De tête, non.
Non, bon, bah ok, tant pis.
Désolé.
Non, mais la tête de Xavier.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu la tête à Toto, on me l'a déjà faite.
Et on termine avec un film rock'n'roll, L'amour en quatrième vitesse, dont le titre original est Viva Las Vegas, de George Sidney en 64, avec Elvis et Anne-Margaret, bien entendu. Elvis qui conduit une voiture de course et tout, magnifique. Très beau, joli, superbe. L'amour en quatrième vitesse, c'est sur Cinéma Classique vendredi prochain à partir de 20h40. Thomas, peux-tu nous faire le résumé de cette émission?
Ça ne fait rien.
Tout à fait, nous avions de la bande dessinée en musique ou l'inverse, des avions, du cinéma hispanique, une histoire vraie sur le foot, un quartier de braqueurs, Bruce Lee dans Spartacus, et oui, Xavier n'avait qu'un CD aujourd'hui, du cul et des bastons en jupette, le gars à la machine à écrire, un joyeux visonnage, une maison fermée, Chuck avec une moustache et de la boucherie au fusil à pompe.
De Dieu! Ah, mais je pensais que du sport allait faire la suite. Nom d'une feuille violente! Nom d'une feuille volante! Allez, je la rappelle. Nom d'une feuille volante, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites. Par exemple, cette semaine, il faut que je remonte assez. The Killer Inside Me, Denise Delaine et la paire Gennaro Kenzie.
Gennaro.
Mais t'as dit Denise Delaine, c'est Denise Léane.
Oh, bah oui, désolé. Le printemps de septembre à la radio.
Boston aussi.
Printemps de septembre à la radio, attention, ce soir c'est le dernier épisode à 22h30 sur Radio FMR. Joe Bartim numéro 7, le livre sans nom. Watchmen, une chronique visuelle, c'est une chronique sur l'œil du diable. Cab Calloway, la légende de Little Boost, Junkie Beats, la fameuse histoire des logos de Stéphane J. Canel et plein d'autres choses, et notamment la playlist du sport tout à l'heure en 30 minutes à partir de 14h. Pour tout cela, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Booster FM prend la suite à 17h et nous revenons à 22h30 et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, il sera question d'une tueuse qui se déguise en nonne à New York. Mon Dieu, mais est-ce que cela aurait un rapport avec un flic à trois doigts? Cherche Thomas, cherche. Hein? Non, c'est une BD française. Dessinée par Bruno Gazzotti, auquel je pensais. Cherchez pas à m'avoir, je pourrais pas vous le dire, je ne sais pas. Tout de suite du sport avec la Souchinette et ciao, bye bye. Rendez-vous samedi prochain à midi.